Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la question kurde et au référendum d'autodétermination de lundi prochain au Kurdistan irakien. Un référendum à haut risque, nous essaierons de comprendre pourquoi. Un scrutin qui, en tout état de cause, pose beaucoup de questions, à commencer par celle de la viabilité d'un Kurdistan indépendant et au-delà, quelles conséquences, en particulier sur la stabilité ou plutôt l'instabilité de la région. C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Frédéric Tissot, médecin, ancien consul général de France à Erbil, au Kurdistan irakien, entre 2007 et 2012, actuellement chargé d'enseignement à la Paris School of International Affairs, auteur de L'Homme debout aux éditions Stock. Bonjour.
Bonjour.
Et Olivier Piau, grand reporter, auteur de plusieurs ouvrages, dont Le peuple kurde, clé de voûte du Moyen-Orient, aux éditions Les Petits Matins. Bonjour.
Bonjour.
Un rappel pour commencer, afin de resituer la question kurde dans son contexte régional, simplement pour dire que la population kurde s'étend sur 4 pays du Moyen-Orient. Elle est majoritaire dans le sud-est de la Turquie, dans le nord-est de l'Irak, dans le nord-ouest de l'Iran et dans 2 régions du nord-est et du nord-ouest de la Syrie. C'est dans la partie rattachée à l'Irak après le démembrement de l'Empire ottoman en 1920 que plus de 5 millions de Kurdes seront lundi prochain amenés à se prononcer sur la question de leur indépendance. Deux questions pour commencer. Le résultat est-il acquis et Frédéric Tissot, pourquoi maintenant ce référendum ?
Le résultat est-il acquis ? Tous les observateurs le pensent, et les Kurdes d'Irak aussi, même s'il n'est pas certain qu'il y ait une vague de oui. Hein, donc le type de 95%, parce qu'il y a des oppositions au sein même de la population et des partis kurdes irakiens. Deuxièmement, pourquoi en ce moment le président Barzani, président de la région du Kurdistan irakien, profite, j'allais dire, du moment où le Kurdistan a participé de façon active à la guerre contre Daesh, les Peshmerga, dans la bataille de Mossoul, principalement, et qu'il a besoin de se légitimer vis-à-vis de l'histoire, car il a déjà fait plusieurs mandats. Il ne peut plus se représenter. Déjà, il ne pouvait plus se représenter. Bon, il s'est maintenu au pouvoir depuis 2015. Il a annoncé qu'il se représenterait plus. Enfin, il veut devenir l'homme kurde, l'homme qui a amené une partie du Kurdistan, en tout cas, à l'indépendance. Et ça, ça serait ce qu'il pourrait gagner actuellement.
Donc une carte d'une certaine manière un peu personnelle pour le président Barzani, Olivier Piau. Ce référendum, Frédéric Tissot, on a dit quelques mots, on parlera bien sûr du contexte international et de l'opposition des grands pays, notamment les États-Unis, la France aussi, mais pas seulement, les pays de la région. Mais même au sein du Kurdistan irakien, il ne fait pas non plus totalement l'unanimité, ce référendum.
Alors, il fait pas l'unanimité, effectivement, mais je crois qu'il arrive à un moment charnière de l'histoire de cette région, et pour le Kurdistan irakien, c'est une très vieille revendication, cette indépendance, depuis l'autonomie acquise en 92 par la région donc kurde du nord de l'Irak, puis la validation par la constitution irakienne en 2005 de ce fédéralisme irakien avec cette autonomie. Depuis 20 ans, les dirigeants kurdes irakiens et la grande majorité des Kurdes de cette région savent qu'une autonomie au sein de l'État irakien laisse une hypothèque sur l'avenir. Et donc, inscrire dans l'histoire par une indépendance de fait, c'est un vieux rêve des Kurdes irakiens. Et je crois que là-dessus, l'histoire le montre, c'est ce que j'essaye d'analyser dans mon livre, il y a des moments de l'histoire où il y a des choses à valider. Et je crois que le président Barzani a compris que là, puisqu'on est entré maintenant dans l'agenda de la reconstruction de cette région, la question de l'indépendance reconnue par les institutions et les puissances internationales, c'est maintenant qu'il faut la poser. Mmh. Et je crois que là-dessus, il a raison, parce que il faut quand même rappeler peut-être pour les auditeurs que cette région est de fait en grande partie indépendante depuis 20 ans. Elle a son parlement, elle a son président, elle a ses institutions.
Elle est autonome, on va dire.
Elle est autonome, et vu le chaos en Irak depuis la chute de Saddam Hussein, c'est la région la plus prospère économiquement. Mmh. Elle a ses missions internationales, elle a son statut. Bon, donc elle a de fait une forme d'indépendance dans son mode de gestion. Mais ça suffit pas. Il est important, je pense, pour les Kurdes, surtout pour ce que va devenir cette région, d'inscrire aux agendas de l'ensemble des grandes puissances de cette planète la reconnaissance effective de cette indépendance, encore une fois, même si l'agenda n'est pas écrit dans le détail. Le référendum ne va pas forcément automatiquement déboucher sur une déclaration d'indépendance tout de suite et un séparatisme de fait. Il y a d'autres négociations à mener.
Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Irak, ce référendum, Frédéric Tistot, cette possible indépendance du Kurdistan irakien? C'est l'implosion de l'Irak dans ses frontières telles qu'elles existent. Et au-delà, est-ce que un Kurdistan irakien indépendant est viable?
Premièrement, pour l'Irak, qu'est-ce que ça veut dire? Vous parlez d'implosion. Il y a longtemps que l'Irak a implosé. Depuis, j'allais dire l'arrivée des Américains.
En 2003.
Hein, puisque déjà, M. Bremer avait fait imploser les institutions, l'armée, l'administration, etc., en refusant que tout Irakien ayant fait partie du parti basse de Saddam Hussein devait être exclu. Alors que tous les Irakiens étaient obligés de toute façon de faire partie de ce parti s'ils souhaitaient avoir un avenir. Hein, donc l'Irak a implosé depuis très longtemps. L'Irak a été dirigé pendant très longtemps par M. Maliki, qui était un musulman chiite sous l'influence iranienne. Et maintenant c'est M. Abadi qui est aussi du même parti, et chiites. Les chiites qui représentent les 60% de la population irakienne. Alors c'est normal que cette majorité soit effectivement été élue comme représentant la nation. Les Kurdes, qu'est-ce que ça changerait pour l'Irak? Je pense que depuis 92, le Kurdistan vraiment ne fait plus partie, de l'Irak. Mmh. Politiquement, c'est clair, même s'il y a toujours eu des Kurdes dans le gouvernement irakien, le président de la République est toujours un Kurde. Il y a eu Jalal Talabani et Fouad Massoum aujourd'hui. Il y a plusieurs ministres kurdes au sein du gouvernement irakien, mais il est vrai qu'il y a eu cette césure depuis 92 qui a été confirmée, comme le disait Olivier Piau, par la constitution 2005, qui fait que l'autonomie accordée à cette région est quand même extrêmement, elle a aussi ses forces de sécurité, les Peshmerga, même si ce n'est pas une armée nationale, puisque les Peshmerga sont encore d'un parti ou de l'autre, soit du PDK, Parti démocratique du Kurdistan, dirigé par Massoud Barzani, et de l'UPK, c'est l'Union patriotique du Kurdistan, qui a été longtemps dirigée par Jalal Talabani, plutôt situé dans la région de Souleymania.
Au sud-est.
La viabilité... Les Kurdes ont montré qu'ils pouvaient diriger cette région, qu'ils pouvaient faire croître son économie à partir du moment où effectivement elle avait de bonnes relations avec ses voisins, que ce soit avec l'Iran, avec la Turquie, avec Bagdad, et effectivement...
Mais alors justement, et pardonnez-moi, je vous interromps, Frédéric Tissot, de bonnes relations avec ses voisins, ça c'est vrai pour le Kurdistan autonome. Est-ce qu'un Kurdistan indépendant, Olivier Piot, peut avoir les mêmes relations, quand on sait par ailleurs que les voisins s'opposent tous à la tenue de ce référendum. Alors la question aussi, est-ce que Barzani au dernier moment peut reculer? Bref, Olivier Piot, pour commencer, entre un Kurdistan autonome et un Kurdistan indépendant, il y a une différence d'acceptation de l'environnement régional, et ça c'est tout de même fondamental.
Oui, pour revenir sur ce que disait Frédéric Tissot, je pense que c'est important de rappeler que c'est pas ce référendum et l'indépendance éventuelle d'un État kurde au nord de l'Irak qui crée l'instabilité de cette région.
On est bien d'accord.
L'instabilité, oui. Elle est préalable. Elle est même préalable à Daesh. N'oublions pas que Daesh est le produit du chaos dans cette région. Et que maintenant que Daesh est d'une certaine façon un peu écarté dans l'agenda des priorités et qu'on revient sur la construction, on hérite finalement du chaos préalable à Daesh qui remonte à 2004. Avec simplement une donne qui a changé, une donne démographique en Syrie et en Irak. Les chiites sont beaucoup plus importants politiquement par leurs milices. Et les Kurdes, il y a eu une sorte de printemps kurde au travers de ces deux guerres civiles en Syrie et en Irak. Donc, je pense que la question d'un État kurde dans cette région, au nord de l'Irak, comme peut-être même plus largement, est un élément de stabilité dans une perspective de sécurité durable dans la reconstruction de cette région. Et ça, je crois que c'est central. Si mon livre s'appelle « Le peuple kurde, clé de voûte du Moyen-Orient », c'est précisément pour ça.
Mais alors, ce serait intéressant de se poser la question de savoir pourquoi la communauté internationale, si tant est qu'elle existe, est opposée à cette indépendance, élément de stabilité, comme vous le dites.
Mais parce que les grands acteurs internationaux, déjà à la fin de l'Empire ottoman, et encore aujourd'hui, et entre ces deux dates, se sont arrogés le pouvoir de décider des frontières des États dans cette région. Et je crois qu'on est à la fin de ça. C'est-à-dire que l'Occident a été l'acteur de l'histoire, de fait, dans cette région, par-delà les intérêts des peuples, et pas seulement kurdes, je pense aussi aux Arméniens, je pense aussi aux Juifs à une certaine époque, aux Arabes, et que ce qui est en train de tourner, c'est que les peuples redeviennent les acteurs de leur histoire dans cette région et tentent de le faire comprendre dans leurs aspirations démocratiques aux grandes puissances. Alors les grandes puissances, là-dessus, elles sont souvent un peu sourdes d'oreilles, mais jusqu'à maintenant, elles ont pensé pouvoir tracer les frontières et les souverainetés des États de cette région en étant les premiers décideurs au nom, en gros, de leurs intérêts. Et le retour en boomerang qui se passe depuis 10 ou 15 ans, c'est que finalement, ce qu'ils ont échafaudé ne fonctionne pas. Bon. Et qu'ils ne vont pas pouvoir, par exemple, si on revient sur les Kurdes, pendant un siècle, on a considéré que les Kurdes étaient une option dans les stratégies géopolitiques de cette région.
Une option, oui, une variante.
Une variante. Et encore aujourd'hui, on dit à Monsieur Barzani, mais Monsieur Barzani, votre référendum, c'est gentil, mais vous attendez dans le couloir, on vous appellera. Et M. Barzani dit, non, il n'y a plus de couloir, je suis dans la salle. Le peuple kurde est dans la salle, et vous allez l'écouter.
Frédéric Tissot, vous souhaitez rajouter quelque chose?
Olivier Piot a tout à fait raison, les Kurdes sont au centre de cet échiquier, actuellement. Et s'il n'y a pas de résolution de ce problème kurde, comme on l'a dit pendant des années et des années, je pense qu'il n'y aura jamais de stabilité, car les Kurdes, maintenant, existent. Ils existaient déjà depuis 92 en Irak, ils existent encore plus aujourd'hui. Et je fais le pari, lorsqu'effectivement je vois la communauté internationale, y compris les Russes, j'allais dire les Soviétiques, pardon, y compris les Russes, les Américains, le président Macron qui a été... il a dit dans sa conférence de presse la semaine dernière, cette semaine, aux Nations Unies, qu'il n'était contre aucun processus démocratique. Hein, certes, il a redit que ce n'était peut-être pas tout à fait opportun, oui, comme a dit Monsieur Le Drian.
Ce qui est une façon gentille de s'opposer tout de même de la part de Paris.
Oui, et en même temps, le jour où je fais le pari que s'il y a 80% de oui au référendum, les Kurdes existeront, et là, nous verrons ses opposants se dire qu'en fin de compte, effectivement, peut-être que il serait mieux, plus facile de considérer effectivement ce oui à un référendum d'indépendance que de continuer à penser que les Kurdes ne sont que des empêcheurs de tourner en rond, comme tous les diplomates de la Terre le font depuis 100 ans.
Alors, est-ce qu'il faut voir cette opposition générale aussi bien en Irak que dans l'environnement régional? Les Turcs sont opposés, les Iraniens sont opposés, les Syriens sont opposés, les États-Unis, la France, pour dépasser cet environnement régional. Est-ce qu'il faut justement y voir quelque chose d'extrêmement important dans la décision que les Kurdes du nord de l'Irak sont en train de prendre, qui leur donnerait raison? D'où le jusqu'au boutisme de Barzanis qui nous fait dire peut-être aujourd'hui qu'il ne reculera pas, Olivier Piot.
Alors, je crois que tout a été focalisé sur la lutte contre Daesh. Bon, on a passé maintenant cette étape. On est clairement, on sent qu'on est manifestement entré dans l'agenda de la reconstruction de cette région. Je crois que tous les grands acteurs qui vont peser sur cette reconstruction, les États-Unis, l'Iran, la Turquie, la Russie, peut-être demain l'Europe ou la France, c'est pas le cas pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'ils aient tous et chacun une stratégie très nette de ce qu'ils veulent. En termes de, en tout cas, de stratégie générale. Chacun sait les intérêts qu'il pourrait défendre. Poutine le sait. Téhéran le sait. Mais il va falloir composer avec les désirs des autres. Et puis, et quand même les peuples de cette région. C'est quand même la moindre des choses. Donc, ils n'ont pas un agenda très clair. À partir de là, le président Barzani a décidé d'inverser les agendas qui, jusqu'ici, je vous le rappelle, sur cette région, étaient soit à Genève, soit à Astana, avec des Kurdes qui étaient plus ou moins conviés. Il a décidé de dire, il y a aussi un agenda kurde et il va falloir que vous l'intégriez. Mais d'une certaine façon, pour ces grandes puissances, il va trop vite. C'est-à-dire qu'il met une hypothèque sur ses stratégies en disant, voilà, toute stratégie à l'avenir va être obligée de prendre en compte un référendum et son résultat, c'est-à-dire l'indépendance kurde. Et ça, ça leur plaît pas aux grandes puissances. Parce qu'ils ont l'habitude de donner l'ordre de négociation, l'ordre du jour et les dates. Là, ils sont bousculés. Donc, chacun dit, stop, attendez, non, c'est trop tôt, pas maintenant, on est contre. Mais ça veut pas dire qu'ils ne sont pas prêts à intégrer cette carte kurde dans leur stratégie, mais d'une certaine façon, ça vient trop vite.
Chacun joue son rôle, d'une certaine manière, c'est cela qu'il faut entendre.
Oui, et ça veut dire que si le référendum est largement en faveur de l'indépendance, s'il a lieu, ce qui sera sans aucun doute le cas, chacun va revoir aussi cette stratégie avec cette carte. Donc, je dirais que la distance que prennent certains verbalement aujourd'hui sur ce référendum ne dit rien de la position qu'ils auront après sur l'indépendance d'un Kurdistan en Irak.
Frédéric Tissot, vous souhaitez rajouter quelque chose pour terminer cette première partie d'émission?
Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Effectivement, tout changera à partir du moment où, effectivement, il y aura une volonté exprimée du peuple kurde irakien d'être indépendant. On verra les grandes puissances, comme on dit, changer totalement leur discours, car il faudra bien qu'elles tiennent compte de ce. J'imagine mal la France, les États-Unis, la Russie, et les Turcs, ne pas tenir compte de cette expression démocratique.
Et il faut se poser la question de savoir ou de connaître les raisons pour lesquelles la communauté internationale s'est prononcée, donner son avis sur ce référendum. Ça vous choque, Olivier Piot, par rapport à d'autres référendums?
Ça me choque pas parce que, je veux dire, c'est le référendum kurde en Irak est une des clés de la reconstruction du Moyen-Orient. Et le Moyen-Orient, pour les grandes puissances, c'est pas la Catalogne. Donc, il y a le pétrole, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'intérêts géopolitiques régionaux pour les uns et les autres. Il y a le bras de fer Iran-Arabie Saoudite derrière. Il y a la volonté de Poutine de revenir sur les bords, sur cette région. Enfin,
voilà. On poursuivra dans la deuxième partie de l'émission géopolitique. Nous retrouvons nos invités, Frédéric Tissot et Olivier Piot, dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la question kurde et le référendum d'autodétermination de lundi prochain au Kurdistan irakien. Nous retrouvons nos invités. Frédéric Tissot, médecin, ancien consul général de France à Erbil au Kurdistan irakien entre 2007 et 2012 et actuellement chargé d'enseignement à la Paris School of International Affairs, auteur de L'Homme debout aux éditions Stock, et Olivier Piau, grand reporter, auteur de plusieurs ouvrages dans Le peuple kurde, clé de voûte du Moyen-Orient, Paris aux éditions Les Petits Matins. Nous avons largement développé dans la première partie de l'émission le moment finalement historique de ce référendum au Kurdistan irakien. Le contexte géopolitique, on voit que Iraniens et Américains sont rarement d'accord sur les questions de relations internationales, mais ils le sont dans le cas du référendum dans le Kurdistan irakien, qu'ils dénoncent. Les Américains en particulier ont tout fait pour que le référendum ne se tienne pas, mais évidemment, qui dit objectif partagé ne dit pas forcément motivation partagée. Quelles sont les motivations des uns et des autres dans leur opposition au référendum, Olivier Piau?
Bon, on a clairement quatre acteurs qui sont frontalement intéressés, et puis d'autres acteurs secondaires, entre guillemets, derrière. Les quatre acteurs, on les connaît, les États-Unis, l'Iran, la Turquie, la Russie, et puis des acteurs qui sont en deuxième front, l'Europe, la France, et puis l'Arabie Saoudite, pour parler des principaux, et Israël. Dans cette région du monde, je crois que ce qui me paraît important, pour revenir sur la perspective d'une indépendance du Kurdistan d'Irak, c'est que toutes les positions, en réalité, sont ouvertes sur la question kurde, même si chacun s'est dit hostile, non pas au référendum en général, mais au fait qu'il advienne maintenant. Tout est ouvert, sauf pour moi la Turquie. La Turquie est
farouchement opposée, oui, et qui ne changera pas de position, c'est cela que vous voulez
dire?
Oui,
c'est dans l'ADN de l'État turc depuis son indépendance en 1923, et en particulier c'est dans l'ADN de la stratégie d'Erdogan, depuis le référendum qui lui a permis d'être président, le nouveau sultan en Turquie. Je crois qu'il y a un souci de faire avec les forces très nationalistes turques, kémalistes, et donc de privilégier la priorité de la souveraineté territoriale de Turquie. Donc là-dessus, je vois pas de changement possible. Sauf peut-être une fragilisation de l'État turc avec une crise sociale en Turquie. Ça, c'est autre chose. La deuxième position nette qui ne changera pas, c'est celle que vient de prendre l'État d'Israël en faveur de l'indépendance du Kurdistan.
C'est un soutien important.
Oui, c'est un soutien important. Israël est au cœur de négociations avec tout un tas d'États maintenant dans l'Afrique subsaharienne. C'est une évolution de la démocratie israélienne. Et puis, derrière Israël, n'oublions pas qu'il y a tout un lobbying. Le soutien d'Israël, c'est le soutien aussi de tous ses moyens d'influencer, et en Europe et aux États-Unis notamment, les politiques des grandes puissances dans cette région. La Russie, c'est clairement une occasion historique de revenir et d'avoir un rôle géopolitique dans cette région qu'ils avaient perdu depuis très longtemps. Donc Poutine fera tout pour inscrire la présence durable de la Russie dans cette région. Ça peut être contre, mais ça peut être avec les Kurdes. Quant à l'Iran, elle est en position de force d'une certaine façon, parce que les milices chiites n'ont jamais été aussi importantes et influentes et en Syrie et en Irak. Et elle y voit un moyen de forcer les uns et les autres à faire reculer l'Arabie Saoudite sur son opposition. Donc vous voyez, mais tout ça, chacun peut le faire avec ou sans les Kurdes. Personne n'a intérêt à ce que les Kurdes imposent l'agenda et le fassent maintenant via le référendum. Mais ce référendum, une fois fait, chacun mettra le paramètre kurde et indépendance du Kurdistan dans son logiciel de stratégie régionale.
Alors, oui, Frédéric Tissot.
Oui, sur la position de la Turquie, je serais peut-être pas tout à fait d'accord avec toi, Olivier, dans le sens où la Turquie peut avoir aussi intérêt à avoir sur son flanc sud-est une force stable, connue, et qu'en plus la Turquie a dans sa main économiquement. Actuellement, le Kurdistan d'Irak s'est développé notamment grâce au système bancaire et à toutes les compagnies, tout le commerce.
La Turquie a beaucoup d'intérêt.
La Turquie a beaucoup d'intérêt. Et ce que l'on ne dit pas assez, c'est que le Kurdistan d'Irak a d'énormes potentiels en réserve pétrolière et surtout gazière, et que tout ce flux énergétique passe à travers la Turquie. Et la Turquie a besoin de ces réserves qui passent et qui sont revendues sur le marché international. D'autre part, rappelons une chose. Olivier Piau parlait des chiites et des sunnites. Les Kurdes, en Irak sont très très grande majorité sunnites. Et dans l'affrontement qui a lieu en sous-main entre les chiites et les sunnites, la Turquie peut avoir besoin de ce renforcement sur son flanc sud-est de ces Kurdes qui sont sunnites. Ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Je ne suis pas tout à fait d'accord de surcroît sur le fait que il pourrait y avoir des mouvements sociaux en Turquie de la part des Kurdes. Historiquement, il faut savoir que Abdullah Öcalan, le fondateur et le patron actuellement en prison du PKK kurde, l'affrontement entre Barzani et Abdullah Öcalan est historique, et c'est à celui, bien entendu, qui sera le premier à déclarer l'indépendance, au moins d'une partie du Kurdistan. Et cela pourrait même affaiblir l'influence du PKK en Turquie, le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait déclaré une indépendance, car à ce moment-là, effectivement, la position de Barzani, historiquement et politiquement, sera renforcée.
Il sera intéressant peut-être de développer un petit peu plus tard la question de l'unité des Kurdes dans un projet plus ou moins commun ou pas. Olivier Piot, je voudrais revenir donc... Vous avez un avis qui n'est pas le même sur la Turquie et l'appréhension de la Turquie par rapport à ce qui se passe au Kurdistan irakien. Alors, facteur de stabilité que cette indépendance du Kurdistan irakien, la question se pose. On évoque l'idée que l'Iran et la Turquie pourraient être tentés par une invasion du Kurdistan irakien devenu indépendant. Olivier Piot.
Pour prolonger ce que disait Frédéric Tissot à l'instant, effectivement, il y a un axe. Erbil, donc capitale du Kurdistan irakien, Istanbul, Ankara, un axe très fort entre l'État turc et le président Barzani depuis maintenant plus de 20 ans. Mmh. Économique, diplomatique, politique, les Peshmerga ont été jusqu'à soutenir ou fermer les yeux, je le rappelle dans mon livre, à plusieurs moments de l'histoire récente, sur les interventions militaires turques au nord de l'Irak, où je rappelle, il y a un maquis, justement, des Peshmerga, enfin des combattants kurdes du PKK turc. Bref, il y a clairement un axe, et dernière preuve, les félicitations envoyées par le président Barzani à Erdogan au moment où il a remporté son référendum. Ouais. Bon. Alors, on comprend bien que dans tout ce contexte où les Kurdes irakiens représentent autour de 5 à 6 millions de Kurdes sur 40 millions, ça fait grincer des dents du côté des autres communautés kurdes. Parce que Erdogan, c'est quand même le grand massacreur et réprimeur des Kurdes, et avant lui, Atatürk. Alors, ça fait grincer des dents, mais en même temps, je dirais que pour tous les Kurdes de cette région, la question de l'indépendance du Kurdistan irakien, il faut le soutenir. Ils sont pas forcément d'accord sur tout, il y a des clivages, il y a des oppositions, mais c'est clairement une première étape. Mais la question c'est, qu'est-ce qui reste en suspens du sort qui va être réservé, un, aux Kurdes de Syrie, dont les dirigeants politiques, le PYD, sont très liés au PKK, d'Öcalan, donc de Turquie, et puis aussi à la communauté kurde d'Iran. Ce que je crains de ce moment historique pour les Kurdes de cette région, d'avoir enfin la reconnaissance de leurs droits politiques, soit de souveraineté territoriale et étatique, soit d'autonomie en Syrie et peut-être ailleurs demain, ce que je crains, c'est que cet axe possible entre Ankara et Erbil fasse que le prochain État kurde d'Irak, peut-être, s'il devait voir le jour, tourne le dos définitivement à ces revendications-là, c'est-à-dire de 70% des Kurdes de cette région. Et pour moi, là, on aurait un suicide sur la question kurde. Et je fais le lien avec l'unité dont vous parliez. Mmh. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il y a une perspective, une unité possible de tous les intérêts de ces communautés? C'est très complexe. C'est clairement très complexe. Il y a aujourd'hui, clairement, une identité kurde de Turquie, une identité kurde de Syrie, d'Iran, parce que c'est l'héritage de 100 ans d'histoire. Mais ce qui fait la spécificité, je crois, même par rapport aux communautés arabes de cette région et à leur histoire, c'est que la répression persistante depuis un siècle a maintenu par-delà les identités qui se sont nationalisées dans chacun de ces États, une identité kurde et une sorte de rêve pan-kurde. C'est-à-dire une bonne partie des Kurdes de ces régions, quels que soient les États dans lesquels ils survivent aujourd'hui, de penser que à plusieurs, à nous tous, à plus que seulement l'Irak ou plus que seulement la Syrie, on obtiendra plus que de se laisser diviser. Parce que le produit finalement d'un siècle d'histoire jusqu'ici, c'est qu'on a dénié le droit au peuple kurde à avoir son État en 1923, et que depuis, c'est toujours cette question qui est posée. Reprenons les frontières de cet État, justement, en 1923, c'est intéressant. Ça serait quoi si on l'appliquait aujourd'hui dans une reconstruction du Moyen-Orient? Ça serait précisément ce territoire revendiqué en indépendance par les Kurdes d'Irak, auquel il faudrait ajouter une bande au nord-est qui passerait par la partie ouest de l'Irak, qui prendrait une partie du sud-est de Turquie et qui reviendrait par la partie du nord-est de la Syrie. Précisément les zones qui aujourd'hui demandent soit une autonomie, soit un confédéralisme, soit... Donc en fait, on voit bien que cette question d'un État kurde, pan-kurde, de fait, est inscrite dans la carte de cette reconstruction du Moyen-Orient.
Frédéric Tissot.
Tout à fait, oui, et sans oublier l'Iran, qui n'avait pas été considéré dans le traité de Sèvres ni de Lausanne, puisque c'était partie intégrante de l'ex-empire perse de l'Iran. Mais aujourd'hui, effectivement, y compris en Iran, la communauté kurde et les partis kurdes en Iran revendiquent, bien entendu, au moins une autonomie. Et cela depuis 1973. Au moins une autonomie. Eux ne sont pas du tout au niveau de l'indépendance, mais au moins une autonomie de pouvoir parler leur langue, de pouvoir chanter en kurde, de pouvoir danser en kurde, de pouvoir s'habiller en kurde et de pouvoir avoir des universités dans lesquelles les étudiants sont considérés comme tous les autres Iraniens. Et effectivement, comme le disait très bien Olivier, toute cette bande, toute cette partie du Kurdistan que l'on voit bien imprimée désormais sur toutes les cartes de cette région, ça serait exactement ce qui existait à l'époque en 1920, où le président Wilson avait proposé, justement, dans le cadre de ce traité de Sèvres, d'avoir au moins un territoire, un État pour les Kurdes. Ça ne s'est pas fait. Comme on le sait, les Kurdes n'étaient pas tout à fait prêts à se réunir, et les grandes puissances, notamment la France et la Grande-Bretagne, ont tout fait pour éliminer cet espoir.
Alors, la question qui se pose, de ce que vous venez de dire l'un et l'autre, elle est de savoir si finalement cette indépendance du Kurdistan irakien peut servir ou desservir la question kurde. Évidemment, on n'a pas la réponse aujourd'hui, même si vous avez lancé des pistes, Olivier Piot. Quelques mots sur Israël, les avantages que représente pour l'État hébreu un Kurdistan indépendant, et j'aimerais aussi qu'on approfondisse un peu la position des États-Unis. Olivier Piot.
Oui, alors peut-être sur Israël, je laisserai Frédéric Tissot répondre, puisque je rappelle qu'il a fait la préface en fait de l'ouvrage. Donc dans l'ouvrage, moi je consacre un chapitre, c'est un lien traditionnel, en gros que Israël, dans une sorte de réelle politique régionale, essaye d'avoir pour trouver des alliés contre les États arabes hostiles. Sur les États-Unis, je crois que c'est assez complexe parce que il faut peut-être rappeler que depuis 2009, les États-Unis, avec Obama, avaient décidé de se désengager progressivement de cette région au profit d'un réinvestissement, un switch, comme on dit en anglais, sur l'Asie. Et ce qui est en train de se passer en ce moment montre bien l'anticipation qu'avaient les Américains. Regardez aujourd'hui la place que prend la Corée du Nord sur même le référendum du Kurdistan irakien. Donc les États-Unis sont à un moment charnière. Je crois que Donald Trump souhaite à terme inscrire sa démarche dans la même que celle d'Obama, qui consiste à dire, en gros, le Moyen-Orient. Prenons la dépendance énergétique des États-Unis en pétrole et en gaz sur cette région, son évolution depuis 50 ans. C'est divisé par 3. Pourquoi ? Parce que les Américains ont depuis 20 ans déjà compris que cette région, en gros, c'est une région. C'est un véritable chaos, ça leur coûte très cher, en hommes, en intervention militaire, etc. Et donc ils ont switché, un, sur leurs ressources pétrolières en gaz de schiste, etc., en interne, et deux, ils sont en train de faire la bascule avec des pays d'Afrique subsaharienne, Sao Tomé et Principe, la Mauritanie, etc. Donc demain, la dépendance énergétique américaine à l'égard du Moyen-Orient, Arabie Saoudite comprise, est amenée à diminuer. Donc en gros, ils ont envie de laisser la place à d'autres. Mais Trump, avec la fierté nationaliste américaine qu'on lui connaît, n'a pas envie de quitter, en gros, cette zone sans réaffirmer en même temps la puissance américaine. Donc, il est toujours là. Et je pense qu'il va y rester et il a envie de dire son mot. Mais son mot est ouvert, y compris sur les Kurdes. C'est peut-être le plus ouvert de tous, d'ailleurs. Et regardons ce qui se passe en Syrie, le pays voisin. Alors que la Turquie fait pression sur lui depuis maintenant 3 ou 4 ans et fortement, en sachant que c'est la première armée de l'OTAN, rappelons-le, pour qu'il ne soutienne pas la lutte armée des Kurdes syriens, ils ont maintenu leur appui logistique, militaire et y compris politique. Donc c'est bien le signe que pour les Américains, en tout cas pour l'instant, les Kurdes sont des alliés importants, potentiels et peut-être pour l'avenir. Voilà pour les États-Unis.
Alors, je me tourne vers vous, Frédéric Tissot, sur la question israélienne, le rôle, ou en tout cas l'importance, ou les avantages que représente pour l'État hébreu un Kurdistan indépendant.
Ça serait certainement un allié très sûr pour Israël. Les Kurdes ont dit que Mollah Mustafa Barzani, le père de Massoud Barzani, le général historique de la lutte pour l'indépendance kurde, a toujours eu des liens privilégiés avec Israël. Rappelons que il y avait énormément de juifs au Kurdistan. Il y a des liens encore très forts entre des familles, des communautés, et que Israël, dans sa lutte contre les pays arabes, verrait un allié sunnite, certes, mais plutôt laïque. Parce que les Kurdes ne disent jamais « je suis sunnite, je suis chiite, je suis athée », ils disent « je suis kurde » d'abord et avant tout. Et vraiment, ça serait un allié certain. D'autre part, il faut se rappeler que si, imaginons que demain, certains le disent, que l'Iran viendrait à bombarder, à envahir le Kurdistan d'Irak, vous aurez immédiatement une réaction israélienne qui serait tout à fait heureux de pouvoir enfin bombarder les centrales nucléaires et autres magasins de l'Iran à ce sujet-là. Vous savez qu'ils sont contre l'accord nucléaire qui a été signé, et ils ont toujours dit que de toute façon l'Iran arriverait à avoir la bombe et qu'il fallait absolument faire de la prévention. Et donc ça serait une occasion rêvée pour les Israéliens de faire cela. Et c'est ça, c'est cet axe-là, Tel Aviv-Erbil, qui se revoit tous les jours d'ailleurs.
En guise de conclusion, Olivier Piau, le référendum de lundi 25 septembre au Kurdistan irakien, les étapes d'après ?
Les étapes d'après, je pense que c'est un vaste débat ouvert sur la reconstruction du Moyen-Orient, dans laquelle les Kurdes ne peuvent plus être mis à l'écart. Et je crois qu'il y a un autre débat qui est très important, c'est si on réfléchit à cette reconstruction, est-ce qu'on réfléchit encore en État-nation ? Ou est-ce qu'on réfléchit aussi sous d'autres formes, peut-être plus nouvelles, de confédéralisme, etc. Et je pense que c'est important, le Kurdistan d'Irak, en demandant l'indépendance, s'inscrit dans une tradition d'État-nation, un nouvel État. Or, on voit bien aujourd'hui, y compris en Europe, avec le Brexit, y compris le référendum de la Catalogne, que peut-être les formes de souveraineté ou de reconnaissance des peuples peuvent passer par d'autres formes à inventer. En tout cas, une chose est sûre, les Kurdes restent une clé de voûte importante dans la reconstruction de ce Moyen-Orient.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Frédéric Tissot, médecin, ancien consul général de France à Erbil, au Kurdistan irakien, entre 2007 et 2012, et actuellement chargé d'enseignement à la Paris School of International Affairs, auteur de L'Homme debout aux éditions Stock, et Olivier Piau, grand reporter, auteur de plusieurs ouvrages dans Le peuple kurde, clé de voûte du Moyen-Orient. C'était votre conclusion aux éditions Les Petits Matins. Je signale aussi la sortie de l'ouvrage de Olivier Grosjean, La Révolution kurde, le PKK et la fabrique d'une utopie, aux éditions La Découverte. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Nathalie Laporte et Véronique Durand. Demain, Géopolitique sera consacrée à la Centrafrique.